Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition toute spéciale de l'émission Point de vue.
Il me regarde plus dans les yeux quand j'appelle. Quand je l'appelle, c'est mon hi dad. C'est tout. Parle plus trop. Tu comprends que l'enfant ne sait plus quoi dire, ne sait plus quoi faire. Il est dévasté. Il est émotionnellement détruit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Aujourd'hui, on passe les 30 prochaines minutes en compagnie de Vincent Lavoie et de ses nombreux invités qui viendront nous parler du parcours du combattant des immigrants au Canada.
Quand on fait un projet d'expatriation, on a des rêves, on se projette sur peut-être une nouvelle vie, un nouveau départ, quelque chose de très positif. Et bien, ça ne se passe pas forcément toujours bien. Et nous, ça nous a conduit, par exemple, à une séparation après un certain temps.
Au fil des témoignages récoltés, un constat revient, celui d'un système complexe et peu transparent.
On a eu des gens avec qui on a pu discuter, poser des questions, renvoyer les dossiers. Ils ont toujours été en très bonne, très très bonne communication. Et nous, on a pris le dossier très au sérieux aussi, je veux dire, parce qu'on voulait venir au Nouveau-Brunswick. Bon, après l'immigration fédérale, là, ça a été l'enfer.
Le système d'immigration canadien, qui est considéré par plusieurs comme étant extrêmement complexe, voire opaque.
Tu te dis, il y a peut-être une porte ou une fenêtre dans ce mur, et en fait, il n'y a rien.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Merci de nous accompagner, Boris Chassagne, avec vous. Le Canada était au cours des dernières années l'un des pays du monde à accueillir le plus grand nombre de nouveaux arrivants par capita. Ils étaient près de 500 000 en 2024. Mais c'est dans la pression exercée par de nombreux gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral canadien a décidé de réduire ses cibles. Le ministère fédéral de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté a annoncé en 2024 que le nombre de résidents permanents accepté au pays passera de 500 000 à 395 000 en 2025, puis à 380 000 en 2026. Oui, l'immigration qui, jusqu'au début janvier 2025, était sur toutes les lèvres, Mark Carney, qui est devenu début mars le nouveau premier ministre du Canada, aura à se prononcer sur cette question au cours des prochains mois. L'immigration francophone hors Québec est aussi devenue un enjeu et les cibles du gouvernement n'ont cessé de croître. Entre 2018 et 2022, précise Statistique Canada, en 2022, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick ont été la destination envisagé par les trois quarts des résidents permanents d'expression française hors Québec. On parle de 2315 personnes dans le cas du Nouveau-Brunswick, surtout donc des immigrants économiques. Mais d'être retenu comme immigrant reçu ou résident ne suffit pas toujours. Plusieurs immigrants affirment devoir affronter ce qu'ils considèrent être le casse-tête du système d'immigration canadien. Vincent Lavoie à Miramichi, au Nouveau-Brunswick, a recueilli des témoignages d'immigrants venus d'Afrique du Sud, de Jamaïque, du Mexique et de France, venus refaire leur vie au Canada. On le savait, mais on va découvrir que c'est parfois plus difficile qu'on ne le croit.
Tout ce que j'avais comme propriété financière ont été vendus parce qu'on s'est préparé pour un nouveau futur.
Pierre Aimé est un nouvel arrivant originaire du Cameroun. Il a vécu au Gabon puis en Afrique du Sud, où il a rencontré sa femme et eu ses deux enfants. Après 22 ans en Afrique du Sud, il entame ensuite les démarches pour immigrer au Canada par le biais d'une entreprise néo-brunswickoise.
J'ai été approché par une compagnie du Nouveau-Brunswick qui m'a fait des offres pour venir travailler ici au Canada. Je travaillais déjà en Afrique du Sud, j'avais un emploi, j'avais une vie stable. J'ai trouvé cette opportunité un peu meilleure pour mes enfants. Donc, ma femme et moi, on s'est entendus et on a pris la décision que oui, en fait, on va prendre cette opportunité. Mais l'opportunité disait ceci, que je devrais venir pour travailler pour cette compagnie. Lors de mon interview avec l'employeur, je leur ai fait bien comprendre que, bon, écoutez, si vous voulez que je vienne travailler pour votre compagnie au Canada, vous devez vous rassurer que je puisse venir avec ma femme et mes enfants. Je ne suis pas prête à me séparer ou bien à abandonner mes familles pour le travail au Canada.
Une promesse qu'on pourrait comparer à un cadeau empoisonné.
L'avantage que j'ai eu dans cette voie sur route, c'est découvrir et voir le risque que beaucoup de gens peuvent prendre pour arriver dans des pays comme le Canada, les États-Unis, tout. Donc, le Canada est un pays vraiment très, très, très bien réputé, avec une très bonne réputation. Nous sommes fiers d'être ici, mais seulement, il y a des difficultés que je pense que le IRCC devrait peut-être comprendre.
Il affirme avoir partagé ses inquiétudes pour que sa famille le suive dans son établissement au Nouveau-Brunswick.
Ces derniers m'ont confirmé que non, et en me demandant même quel genre de travail ma femme faisait et quelles qualifications avait, je les ai donné toutes les informations de ma femme et ils m'ont fait comprendre, ils m'ont bien confirmé en disant ceci, non, t'en fais pas, on a des compagnies ici qui ont besoin des gens qui font de la comptabilité, ou une fois que tu seras ici, après un mois ou deux, ta femme te retrouvera, juste que tu viennes d'abord et puis après tout sera réglé, t'en fais pas.
Toutefois, la situation va changer très vite.
Quand je suis arrivé, les choses ont changé avec cet employeur. Et quand je l'approche, il lui demande, patron, vous m'avez promis qu'une fois que je serai ici, vous allez m'aider à faire venir ma femme et vous allez lui donner l'offre d'emploi et tout. Oh, ben écoute, l'employeur, des gens que je connaissais n'en ont plus besoin et des choses comme ça, ceci et cela. Et ça a traîné, c'est comme ça.
Une fois arrivé au Canada, son employeur brise ses engagements et repousse indéfiniment les procédures d'immigration de sa famille. Une décision discutable, mais pas illégale. Il a depuis tenté d'initier des démarches d'immigration auprès du gouvernement canadien, mais sa demande a été rejetée à deux reprises.
Après la dernière réjection, ma femme a complètement blackout. Mon fils aussi a perdu contrôle. Ma femme a été convoquée par la directrice de l'établissement de mon fils pour vérifier l'état de mon fils. Il est en santé, mais émotionnellement, il est détruit. J'étais son seul ami. On faisait du sport ensemble le matin. On racontait des histoires ensemble. On riait. Quand il a besoin de conseils, je le conseillais. J'étais son père, j'étais son ami. Quand je suis parti, je lui ai promis que ça allait pas être longtemps qu'on allait se retrouver. Mais quand il a réalisé que ça ne se faisait pas, il a aussi blackout. Il n'est plus trop social. Il se ferme dans sa chambre. Tout ce qu'il fait, c'est parfois pleurer. Il me regarde plus dans les yeux quand j'appelle. Quand je l'appelle, c'est mon hi dad. C'est tout. Il parle plus trop. Tu comprends que l'enfant ne sait plus quoi dire, ne sait plus quoi faire. Il est dévasté. Il est émotionnellement détruit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Au cours de sa démarche, Pierre-Aimé a sollicité les services de l'Association régionale multiculturelle de Miramichi ainsi que du CAFI dans l'espoir de réunir sa famille. L'agente de coordination d'établissement en région rurale, Juliette Cabana, cumule 15 ans d'expérience et épaule plusieurs immigrants à s'établir dans le comté de Northumberland.
Depuis 2019, on a un avis sur la page d'arrivée que si vous venez aux régions de vous trouver un logement avant d'arriver, car on a un grand crise manque de logement. C'est pas évident. Pour les employeurs qui font venir des travailleurs, il y en a souvent qui vont pouvoir soit aider à trouver le logement ou même l'offrir, avoir un logement pour son travailleur. Mais effectivement, ils voient les mêmes défis que les Canadiens à trouver.
Garder les familles unies est un énorme défi en immigration, selon Mme Cabana. Pour illustrer ce propos, elle nous raconte l'histoire d'une famille qui a tenté de s'établir dans la région de Miramichi il y a maintenant 8 ans.
La mère est arrivée en premier comme travailleur. Elle a fait venir son mari. Ensuite, dans la demande de résidence permanente, ils ont inclus les 3 enfants. Pour que les enfants dépendants soient inclus dans la demande de résidence permanente, ils doivent avoir moins de 21 ans. Et l'enfant le plus vieux de cette famille, elle a eu 21 ans avant la demande a été traitée, donc il a été exclu. On est là 8 ans plus tard depuis son arrivée du premier membre de la famille et cet enfant n'a toujours pas réussi à avoir un visa visiteur.
Malgré tous les efforts déployés, impossible pour ce jeune adulte de retrouver sa famille.
On a fait envoyer des demandes avec des lettres de soutien du membre du Parlement, du maire de la ville d'où qu'il reste. Plusieurs choses. En fin de compte, j'avais contacté Immigration Canada avec le client et la réponse écrite était que le travailleur étranger temporaire n'a aucun droit pour être réuni avec sa famille.
L'Association multiculturelle de Miramichi, dans ces cas, n'a aucun pouvoir décisionnel sur ces dossiers, mais fournit quand même des services d'assistance aux gens qui en font la demande.
Beaucoup de nouveaux arrivants, ils sont méfiants et Ils n'ont pas tout à fait un gros confiance, dépendant de leur pays d'origine, dans les systèmes gouvernementaux. Donc, c'est juste un petit soutien, mais ils viennent ici, puis on peut appeler Immigration Canada avec eux autres. Tu sais, on peut les assurer, bon, cet appel, ça ne touchera pas à votre statut. La personne qui prend l'appel ne peut pas faire de décision sur votre cas, mais on peut essayer de trouver des réponses à leurs questions. Et au pire, ben, on va leur dire, bon, voilà, on ne peut pas vous aider avec telle situation. Votre meilleur choix sera de voir un avocat en immigration.
Des cas comme celui de Pierre-Aimé, l'avocat Carl Alphonse en a vu plusieurs. L'avocat de Toronto se spécialise depuis bientôt 10 ans en droit de l'immigration.
Très typique, très typique. Ce qui arrive, c'est que la plupart des pays qui ont de la difficulté, ce sont les pays qui ont besoin d'un visa.
La plupart des pays d'Europe ou certains pays d'Asie n'ont pas besoin de visa pour entrer au Canada, mais plutôt d'un document électronique dont la demande peut se faire en ligne.
Mais la plupart des pays, comme les pays d'Afrique, des Caraïbes et d'autres pays, eux, ils ont besoin d'un visa. Et là, comme quand tu as besoin d'un visa, si tu appliques pour un séjour temporaire au Canada, c'est là qu'il faut démontrer que tu as une intention temporaire pour venir au Canada. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes avec la plupart des permis de travail en temporaire et même les visas visiteurs ou les visas étudiants, parce qu'il faut démontrer l'intention de laisser le Canada après que le séjour est fini.
Lorsqu'un travailleur étranger compte emmener sa famille, Maître Alphonse recommande d'inclure immédiatement la famille pour faciliter les procédures qui suivront, au lieu de modifier un dossier déjà traité ou en cours de traitement. Pour tenter de réduire les délais, mais aussi pour optimiser ses services, le ministère d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada utilise l'intelligence artificielle pour traiter ses dossiers. Une méthode employée en particulier depuis la pandémie de COVID-19.
Actuellement, plusieurs des programmes en immigration utilisent l'intelligence artificielle. Quand certaines applications rentrent dans le système, dépendamment du profil de l'application, c'est mis dans des catégorie à risque où il y a plus de chances de se faire en refuser.
Un système qui peut charmer sur papier, mais qui apporte aussi son lot de problèmes. Suite à son premier refus, le dossier de Pierre-Aimé aurait été classé dans une catégorie à risque qui augmenterait grandement les chances de se faire refuser de nouveau.
Dans son cas, il y a eu un premier refus, un deuxième refus. Donc après le premier refus, quand il a appliqué, les chances de se faire refuser après un premier refus, c'est pas mal plus. Et le système d'intelligence artificielle sait que quand tu as un dossier refusé, ça va dans la pile des dossiers à risque et ça risque d'être refusé. Ça cause beaucoup de refus qui ne sont pas mérités.
Lorsque l'utilisation de l'intelligence artificielle est remarquée, dans le cas d'un refus automatique par exemple, il est recommandé de faire appel à la Cour fédérale, ce qui occasionne des frais supplémentaires et prend beaucoup de temps. Mais heureusement, le cas de Pierre-Aimé n'est pas désespéré, selon Maître Alphonse.
Moi, je pense qu'il y a des avenues possibles. Il est déjà au Québec, il a une bonne job. Probablement, il y a des options pour la résidence permanente. Et il peut aussi avoir des options à l'extérieur du Québec aussi, des options pour la résidence permanente. Pour que l'époux et l'enfant puissent venir le retrouver au Canada, c'est pas impossible, mais le fait qu'il y a eu plusieurs refus dans le dossier, ça va rendre la situation plus difficile.
Pierre-Aimé pourrait également formuler une demande d'accès à l'information pour recevoir son dossier et les notes écrites par un responsable d'Immigration Canada pour reformuler sa demande. Récemment, le gouvernement fédéral a apporté plusieurs changements drastiques au système d'immigration pour réguler l'afflux de nouveaux arrivants au pays. La première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, affirme n'avoir parlé lors d'une rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau en novembre 2024.
Le premier ministre, il est venu nous voir ici au Nouveau-Brunswick, puis l'immigration était sur ma liste pour lui parler parce qu'on a beaucoup d'inquiétudes au niveau des politiques fédérales parce que l'immigration est encore vraiment importante pour le Nouveau-Brunswick et l'immigration francophone. Maintenir notre niveau d'immigration francophone pour ce qu'on ne voit pas, on ne veut pas voir que la communauté diminue sa présence d'un tiers de notre province. Mais le niveau d'immigration francophone à ce moment ne rattrape pas avec toute l'autre immigration qu'on voit. Alors, on s'est parlé, mais je ne suis pas convaincue que le gouvernement fédéral va être là pour nous aider à ce moment. Je pense qu'on doit pousser encore parce qu'ils ont un vue nationale qui n'est pas reconnaissant de la réalité au Nouveau-Brunswick.
Cela fait maintenant 3 ans que Pierre-Aimé n'a pas revu sa famille. Depuis, il a quitté l'entreprise néo-brunswickoise qui l'a amené au pays Il travaille aujourd'hui dans une entreprise au Québec.
Sans ta femme, sans tes enfants, tu travailles, mais ton esprit n'est pas ici. Ton esprit n'est pas ici.
Selon Statistique Canada, au premier trimestre de 2024, les provinces des Maritimes ont chacune accueilli leur plus grand nombre d'immigrants pour tout trimestre depuis que des données comparables existent, soit depuis le troisième trimestre de 1971. La croissance de l'immigration permanente dans les Maritimes s'expliquerait principalement par le besoin croissant de travailleurs qualifiés. Dario Urdapilleta est originaire du Mexique. Il a entrepris des démarches pour s'établir au Canada après une première expérience de travail en Colombie-Britannique en 2009. 10 ans plus tard, dans l'espoir d'une meilleure qualité de vie, il entreprend avec sa conjointe des démarches pour s'installer au Canada. Il engage alors les services d'une firme d'avocats agréée au Mexique pour l'épauler dans ses démarches. La firme d'avocats lui recommande de venir au Canada à travers un permis d'études pour ensuite décrocher un permis de travail post-diplôme qui mènerait éventuellement à une résidence permanente. En somme, sa démarche se passe plutôt bien avec le gouvernement provincial qui met en place des programmes d'intégration. Toutefois, lorsqu'arrivent les démarches d'immigration avec le gouvernement fédéral, il dénonce un manque de transparence. Après ses études, les démarches pour recevoir un permis de travail post-diplôme sont approuvées et le couple réserve un voyage pour voir leur famille au Mexique. Mais une annonce du gouvernement fédéral en février 2024 vient chambouler leur plan, alors que les Mexicains ont désormais besoin d'un visa pour venir au Canada.
We had to either cancel the trip or stay to or 3 months in Mexico until we get the visa so we can get back. So we had to cancel the trip and lost our money from the reservations. We tried to recover as much as we could, but still, it's horrible, right, to pay for a trip that you could not make it.
Le couple a soit le choix d'annuler leur voyage ou de rester au Mexique quelques mois le temps que le visa leur soit accordé. À contre-cœur, ils annulent leur voyage et perdent tout l'argent qu'ils ont investi. Viennent ensuite des problèmes liés à la bureaucratie qui compliquent le traitement des dossiers. Les permis de travail qui garantissent un retour sans problème au Canada n'avaient aucun signe démontrant qu'ils étaient valides.
Apparently, they were not fixing the problem. I called many times, so I even got the MLA to call on behalf of me, and he was able to talk to IRCC twice, but they never told them why the process was never completed correctly.
Des problèmes techniques qui occasionnent la perte de dossiers qui ne sont pas résolus. Après plusieurs appels, dont quelques-uns furent réalisés par le député local, Immigration Canada ayant été rejoint au moins 2 fois, n'ont pas permis d'obtenir de réponse de la part du ministère fédéral. Le couple se résout finalement à abandonner les démarches pour obtenir une résidence permanente pour finalement passer par le système d'immigration provinciale. Toutefois, les démarches prennent du temps et ils resoumettent leur candidature en septembre alors que les premières candidatures arrivaient à l'échéance. Aujourd'hui, M. Urdapilleta travaille chez Service Nouveau-Brunswick et le couple espère pouvoir décrocher une invitation du gouvernement provincial pour une résidence permanente d'ici septembre 2025. Un parcours similaire à celui de Jamie Silvera, qui est venu de Jamaïque pour s'établir dans la région de Miramichi pour des études il y a maintenant 10 ans, sous la recommandation d'un ami.
A friend of mine came here to Miramichi for school, and he then told me about the place and said I should, you know, try it out. So I applied to go to NBCC.
2 ans plus tard, en 2017, suite à ses études au campus de NBCC, il décroche un permis de travail pour mettre ses études de communication à l'œuvre. Un parcours semé d'embûches.
You have to go out, you have to push, you have to try things, you have to do jobs that you might think it's the meaning from where you're from. Because back home, I would never have said that I would have worked in a nursing home. Back in Jamaica, I wouldn't have. I came to Canada and I had to.
Il relate l'importance d'essayer de nouvelles choses, de tout faire pour pouvoir rester au pays, évoquant la nécessité de travailler dans une maison de retraite, chose qu'il n'aurait jamais envisagée auparavant. Il finit toutefois par revenir à ses connaissances en communication pour fonder son entreprise médiatique, Denka Media, en 2021.
It came to me that as an immigrant, when I came here, there is no proper guidance really for immigrants and you don't get that handbook. So I figured that why not do a documentary sharing immigrant stories. You know, they share their experiences, their trials, their tribulations, their triumphs, their victories, and they compare it to their country so that others can learn from it.
Produisant d'abord des documentaires sur la musique, il réalise qu'il peut mettre son expérience dans le système migratoire à contribution pour éduquer les gens d'autres pays qui songent à immigrer au Canada. Jamie Silvera a reçu son statut de résident permanent en 2018 avant de recevoir la citoyenneté canadienne en 2022. Guillaume Aymard a quitté la France il y a 7 ans pour venir s'installer au Canada.
On aime beaucoup le Canada, c'est un pays qui nous a toujours fait rêver. Après, qui dit Canada pour les Français, c'est Québec. Donc, on a commencé à bien évidemment regarder pour le Québec. Les diplômes de ma femme sont très bons. Moi, j'ai des diplômes qui sont beaucoup moins valorisants qu'elle. Certains ne sont pas reconnus ici, par exemple. Ce qui fait que pour le Québec, ça a commencé à être compliqué. Et puis, en fouillant, puisqu'on voulait quand même partir sur le Canada, on avait remarqué que le Nouveau-Brunswick était une province bilingue. Donc, on a commencé à s'intéresser au Nouveau-Brunswick beaucoup plus sérieusement.
Sa famille choisit le Nouveau-Brunswick pour son bilinguisme et sa proximité à la mer. Une visite des quatre coins de la province a charmé la famille.
On a fait Bathurst, Moncton, Fredericton, Edmundston. Tu vois, on a vraiment fait le tour de la province comme ça pour voir où s'installer.
Commencent ensuite les démarches d'immigration avec la province qui se passent plutôt bien.
On a eu des gens avec qui on a pu discuter, poser des questions, renvoyer les dossiers. Ils ont toujours été en très bonne communication. Et nous, on a pris le dossier très au sérieux aussi, je veux dire, parce qu'on voulait venir au Nouveau-Brunswick.
Par contre, le système d'immigration fédérale était une autre paire de manches.
Bon, après l'immigration fédérale, là, ça a été l'enfer. C'est l'enfer, mais c'est pour tout le monde l'enfer, quoi. C'est des papiers que tu dois renvoyer, ils perdent des dossiers. Tu dois payer. Mais quand t'es seul, c'est déjà assez cher. Mais quand t'as 3 enfants, donc 2 adultes, et tu viens de vendre ton restaurant, tu quittes ton travail, tu quittes ta famille, ouais, et t'as personne avec qui parler, c'est un mur. Donc c'est très frustrant parce que tu te dis, il y a peut-être une porte ou une fenêtre dans ce mur, et en fait, il n'y a rien. C'est un mur qui fait 10 mètres de haut, 20 mètres de large, et tu te retrouves à envoyer des documents qui sont perdus. Si jamais il y a la virgule qui va pas sur le dossier alors que tu as la bonne réponse, ton dossier va être refusé comme ça. C'est fou.
Après plusieurs embûches, les démarches pour obtenir une résidence permanente semblent aboutir, mais traînent encore de la patte.
Le dossier a été envoyé de France, mais on arrive au bout de la troisième année, et là, le dossier n'est toujours pas validé. Tout est envoyé, on a passé tout, on reçoit un mail disant que tout est OK, mais on n'a pas la carte de résident permanent. Et on sait que ça peut être dangereux. Tu as des enfants. Comme je dis à tout le monde, c'est tu as 20 ans, tu as un sac à dos. Ouais, tu prends le risque. Mais pas à 40 ans, avec 3 enfants, tu te poses toutes les questions.
La pression est telle que la famille envisage même de tout arrêter et repartir en France.
Est-ce qu'il fallait refaire un visa de travail? Notre procédure était au point mort. On s'est dit, c'était fini, on arrête. Donc là, 2018, 2019, 2020... Le Covid est passé par là aussi. On rentre en France et quand on aura les papiers de résident permanent, on reviendra ou pas, on verra. Mais là, c'est stop. À un moment donné, on va arrêter de... Ouais, c'est ça, on est à 15 000 $ de dépenser. On arrête les frais, je veux dire, c'est énorme. Puis la pression aussi, c'est une pression parce qu'il n'y a pas de psychologue qui t'aide, il n'y a personne. Tu as une pression, tu es seul face à rien du tout. Tu es seul, désarmé, même si tu as des associations qui sont là pour t'aider et tout, mais ils ne peuvent rien faire contre l'État fédéral. C'est... l'État fédéral.
Heureusement, par coup de chance, tout rentre dans l'ordre.
Donc on décide de rentrer 3 semaines avant notre départ. On reçoit notre carte de résident permanent et tout qui va bien. Donc soulagé, vraiment soulagé. Et c'est là qu'on décide de s'acheter la maison, qu'on a toujours d'ailleurs. Et après, on va faire la procédure qui est en cours de citoyens canadiens, puisque c'est notre objectif.
Guillaume Aymard a passé plusieurs années comme camionneur, mais il occupe depuis quelque temps le poste d'assistant de circonscription pour le comté de baie de Miramichi-Négouac. Sa conjointe a réussi son examen de citoyenneté canadienne et ses 3 enfants devraient recevoir une invitation à une cérémonie d'assermentation sous peu. Pour le cas de M. Aymard, la citoyenneté canadienne ne serait qu'une question de temps. Ayant toutefois la résidence permanente, il dispose toujours de l'option de pouvoir la renouveler. Jonathan Dufault a aussi franchi l'Atlantique pour venir s'établir au Nouveau-Brunswick. L'objectif premier de sa démarche concerne le système d'éducation de ses enfants.
Nous avons recherché un système alternatif et c'est comme ça, avec nos recherches, qu'on est arrivé à l'idée du projet canadien. On est passé quand même par la réflexion de Nouvelle-Zélande et on a poussé la réflexion puisqu'on a même passé 6 mois en voyage en Nouvelle-Zélande. Les enfants ont eu la chance d'aller tester l'école en Nouvelle-Zélande un petit peu. Et le système, honnêtement, nous plaisait. Mais l'immigration était vraiment très compliquée en Nouvelle-Zélande. Nous sommes revenus à notre projet initial, qui était le Canada, parce qu'on avait repéré que le système scolaire avait beaucoup plus de souplesse que le système français. Ça nous plaisait, ça nous tentait de de venir l'expérimenter tout simplement. On aurait pu choisir le Québec comme beaucoup de Français ou de francophones, mais nous, justement, ce qui nous a attirés au Nouveau-Brunswick, c'est le fait que ça soit la seule province officiellement bilingue. Comme ça, nos enfants auraient la chance de parler les deux langues.
Pour venir au Canada, il assiste à un forum mobilité appelé Destination Canada, qui lui fournit des informations utiles pour venir au Nouveau-Brunswick.
Le fait de rencontrer des personnes et de discuter avec elles change complètement la donne par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet quand on fait ses recherches.
Pour lancer les démarches d'immigration, Jonathan utilise l'avenue du permis vacances-travail, une option qui permet de venir au Canada sans avoir décroché d'offre d'emploi au préalable. Toutefois, cette avenue comporte des risques.
On est tiré au sort, et ce n'est pas du tout sur nos compétences. C'est un tirage au sort, donc il faut avoir un peu de chance. Je pense qu'il y avait 7500 places sur peut-être 20 000 candidats. Donc voilà, cela a permis de se faire inviter, comme on dit, par le gouvernement du Canada. Et on avait un an à ce moment-là pour partir.
En 2019, avec l'autorisation en main, valable pour un an, la famille commence à planifier son déménagement. Elle quitte le sud-est de la France pour s'établir temporairement en Bretagne.
Et là arrive le Covid. On a dû changer nos plans. Et tous les trois mois, le permis était prolongé, c'est-à-dire la possibilité d'activer le permis était prolongée. Et là, le petit miracle s'est produit. Donc, toutes les démarches qui avaient été entreprises pour chercher du travail à distance, grâce aux salons, les forums, les recherches en ligne, ça a abouti. Et c'est à Miramichi que j'ai trouvé du travail au Carrefour Beausoleil.
Mais la pandémie de COVID-19 a eu des impacts inattendus sur les règlements déjà établis. La famille apprend à l'aéroport que seuls les travailleurs essentiels peuvent voyager.
Je ne sais pas si vous imaginez, avec toutes les valises quittant votre pays, et sur le coup, vous ne pouvez pas embarquer. Ça a été encore du stress pendant l'été, d'essayer de négocier avec l'immigration pour obtenir une dérogation.
Une dérogation qui sera finalement accordée deux mois plus tard, tout juste avant la rentrée scolaire. Une fois arrivée au Canada, la conjointe de M. Dufour reçoit un permis visiteur et non un permis de travail.
Quand on fait un projet d'expatriation, on a des rêves, on se projette sur peut-être une nouvelle vie, un nouveau départ, quelque chose de très positif. Et quand chacun individuellement, on se retrouve dans ce nouveau contexte, ce nouvel environnement, loin de sa famille, loin de ses amis, eh bien, ça ne se passe pas forcément toujours bien. Et nous, ça nous a conduit, par exemple, à une séparation après un certain temps.
Malgré les embûches, Jonathan Dufault ne remet pas en cause sa décision de venir s'établir au Canada.
J'ai envie de continuer l'aventure et on se sent... Je dirais presque acadien, alors pas encore totalement, on n'a pas le même accent, c'est vrai, mais on a la même langue et voilà, on est toujours en processus d'adoption et d'intégration.
Que devrions-nous tirer de ces histoires, aussi différentes les unes que les autres? Bien que le système de l'immigration canadien crée des situations d'intégration réussies mais semées d'embûches, les témoignages dressent le tableau d'un système complexe et peu transparent, sans oublier dispendieux pour ces personnes en quête d'une vie meilleure. Ici Vincent Lavoie, pour IJL. Miramichi.
Et c'est là-dessus qu'on conclut cette édition de Point de vue. Merci à Vincent Lavoie pour ce beau document. Merci à Julia Chénu, notre rédactrice nationale. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Ciao!
Ici Vincent Lavoie à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue. Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@frequenceinfo.ca.